Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Pascal Boulanger, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, nous sommes ici à Bazouges-la-Pérouse. Vous nous accueillez chez vous. Vous êtes critique littéraire, vous avez été bibliothécaire et vous êtes écrivain en poésie, on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça.
Et donc, voilà, vous nous accueillez notamment pour discuter de ce recueil qui est ce dernier recueil que vous avez publié qui s'intitule L'intime danse, qui est le 24e ouvrage de votre carrière d'écrivain ou de votre vécu ou d'écrivain. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi s'agit-il cet ouvrage, L'intime danse ? Sur quoi avez-vous écrit dans cet ouvrage ?
Écoutez, je crois qu'il y a toujours un processus d'identification quand on écrit. Et j'ai ressenti le besoin quand j'ai été à la retraite, après une carrière professionnelle comme bibliothécaire, j'ai ressenti ce besoin de relire Hölderlin, puisque Hölderlin, c'est le poète à la fois de l'implication. Il a été impliqué dans le monde de la pensée de son époque, grand ami du philosophe Hegel notamment. Et puis, il y a eu chez lui comme une brisure mentale qui a fait que, considéré comme fou, il s'est retrouvé une grande partie de sa vie, une trentaine d'années, à la retraite, si je puis dire. C'est-à-dire en conflit, quelque part, avec le monde de la pensée, mais aussi le monde social, le monde des rapports humains. Alors moi, évidemment, le processus a été différent. Je me suis installé ici, dans ce village de l'Ille-et-Vilaine. Mais j'ai ressenti le besoin de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire d'être à la retraite ou en retrait du monde, des activités. Et j'ai senti donc le besoin de relire Hölderlin. Donc j'ai relu dans la Pléiade, il y a une édition complète d'Hölderlin, dans la collection Pléiade chez Gallimard. Et relisant Hölderlin, j'ai été extrêmement sensible, non seulement à son écriture, mais aussi à l'homme qu'il était. Et j'ai voulu, d'une certaine manière, lui rendre hommage. Et en lui rendant hommage, automatiquement, j'ai pensé aussi à ma propre traversée. J'arrive à un âge où on se questionne sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, dans tous les cadres, le cadre social, familial, professionnel. Et cette interrogation, j'ai voulu l'exprimer, parce que c'est comme ça que j'exprime le mieux les choses, d'une manière sensible, c'est-à-dire d'une manière poétique. Donc la naissance de ce manuscrit, au départ, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à la fois mon statut en retrait, tout en étant présent, mais d'une autre manière, et c'est cette identification à une écriture, à une pensée, puisqu'on travaille toujours, on écrit toujours, je crois, on peint aussi toujours, et on fait de la musique aussi toujours avec. C'est une notion d'ailleurs qui vient de Deleuze, en fait, le mot « avec ». On écrit avec. Donc moi, j'ai toujours écrit avec la bibliothèque, si vous voulez, et avec une partie de la bibliothèque, avec des auteurs qui sont des intimes. Et donc, Hölderlin, comme Rimbaud, fait partie de mon panthéon intime. Et donc, les écrivains, entre eux, se parlent, en fait. Ils communiquent.
Justement, dans votre mode d'écriture, c'est une communication avec... vous étiez bibliothécaire, justement. Quand vous écrivez, c'est une manière d'entrer en discussion avec les autres écrivains.
Exactement. Je pense que l'écriture, en tous les cas chez moi, ça s'est posé comme ça, c'est à la fois un foyer de biographie, c'est sa propre traversée, donc sa propre émotion par rapport aux choses, par rapport aux gens, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on aime moins. Et c'est à la fois un dialogue permanent avec la bibliothèque, avec donc des écrivains qu'on sélectionne d'emblée, en quelque sorte. On lit beaucoup quand on est jeune, et puis tout à coup, on se dit « Ah bah celui-là, oui, en effet, il me parle. Il me parle. Et donc, je vais lui parler aussi. » Et ça se passe, à mon avis, souvent comme ça, je crois. Mais je crois que c'est vrai aussi pour les peintres. Hein. Par exemple, les peintres ont aussi des influences, les fameuses influences. Il y a un exemple fameux dans l'histoire des lettres, entre Rimbaud et Claudel, par exemple. Claudel dit que Rimbaud a joué un rôle absolument considérable. C'est ce qu'on appelle les passants considérables. Voilà.
Est-ce que vous, justement, vous parlez de Rimbaud, est-ce que vous pourriez nous parler de ce rapport à Rimbaud que vous pouvez avoir, quelle importance il a dans la formation d'écrivains et par la suite?
Alors, Rimbaud a joué un rôle extrêmement important quand je me suis retrouvé à la fois très seul et très occupé par les lectures, par la bibliothèque, très seul d'un point de vue social et d'un point de vue affectif, quand j'avais une vingtaine d'années. Et ce qui m'a plu d'emblée dans Rimbaud, ce qui m'a interrogé, questionné, c'est son schéma, en quelque sorte, c'est sa traversée fulgurante, parce qu'il y a une fulgurance chez Rimbaud, par le fait qu'il décède aussi très vite, et puis surtout qu'il arrête d'écrire très très vite. Il y a deux livres essentiels de Rimbaud, c'est Une saison en enfer et Les illuminations. Une saison en enfer, c'est une traversée qu'on pourrait dire relativement dramatique, une traversée face au monde tel qu'il le perçoit, au monde qui l'environne, et qui est donc, le titre est assez explicite, c'est une saison où ça en enfer. Sauf que chez Rimbaud, il y a cette sorte de souplesse d'esprit qui fait qu'il va se dégager de ce qui l'encombre. Chez Rimbaud, il y a toujours eu cette recherche de se dégager de ce qui l'encombre. Tous ces liens qu'il trouvait pesants ou bien mensongers. Les liens mensongers et faux entre les êtres. Et donc Rimbaud se dégage de cette saison, il ne passe qu'une saison en enfer, c'est pas les quatre saisons, pour aller où ? Pour aller vers ce qu'il appelle son deuxième recueil, Les illuminations. Et qu'est-ce que c'est qu'une illumination ? C'est une façon d'être à l'écoute du surgissement de la beauté. C'est ce qu'on pourrait appeler l'épiphanie. Tout à coup, la beauté est là, elle s'impose, elle nous parle, elle nous pense aussi quelque part, elle nous pense au niveau de la pensée, mais elle nous pense aussi par rapport au petit bobo. Vous voyez, le mot penser, c'est P-E-N-S-E-R, mais aussi P-A-N-S-E-R. Voilà. Donc quelque chose nous pense et nous pense, et chez Rimbaud, il faut être à l'écoute de ce qui surgit là, dans la beauté des choses, et ça a toujours été chez moi une ligne de conduite, c'est-à-dire savoir que le réel, on y bute tous, pour diverses raisons, parce que c'est compliqué, les rapports sociaux sont compliqués, les rapports amoureux sont compliqués entre les êtres, mais il y a quelque chose qui dépasse tout ça, et c'est justement cette beauté très simple d'ailleurs, beauté des paysages, que j'aime tant ici d'ailleurs, maintenant où je vis pas trop loin de la mer, beauté des forêts, et puis beauté de certains visages, voilà, qui surgissent comme ça dans la vie.
Pour revenir à l'intime danse, est-ce que c'est un moment justement d'illumination ? Ce sont des moments d'illumination. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout simplement de cette notion d'intime danse et de ce recul?
Alors, l'intime danse, pour moi, en effet, d'abord dans le mot danse, là c'était la densité que je voulais évoquer, mais on entend évidemment le mot danse, le fait de danser. la chorégraphie. C'est quoi pour moi l'intime danse ? C'est à la fois la présence, ce qui fait présence en soi. Et c'est vrai que là, quand on est à la retraite, on n'est plus dans la réalité rugueuse. On est dans une sorte... On surplombe, en quelque sorte. On est dans une sorte de contemplation. On a le temps. On a le temps de contempler, de voir les choses. Donc, la poésie, pour moi, c'est ce trait. C'est le trait de la contemplation, en quelque sorte. Quand je suis devant la mer, quand je suis en promenade, quand je suis au Mont-Saint-Michel, quand je suis, voilà, dans des espaces comme ça, qui sont des espaces ouverts, quelque chose s'affirme. Voilà. Donc l'intime danse, c'est cette affirmation que moi-même je traverse à travers mon vécu, qui est un vécu donc en retrait et en même temps en présence. Mais justement, ce passage de la beauté, c'est un peu comme la métaphore de l'amour, si vous voulez. Il y a à la fois la présence, le trait amoureux en quelque sorte, et puis à un moment donné le retrait. Le départ, c'est-à-dire il y a toujours ce mouvement dialectique, vous voyez, entre la présence et l'absence. C'est-à-dire, je pense que les choses sont toujours de passage, en définitive. Et que l'intime danse, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette idée que... C'est ce qu'a vécu, je pense, Hölderlin, c'est qu'il est à la fois présent, il sait que les choses sont présentes, et que, en définitive, elles ne sont aussi que de passage. C'est un peu comme le passage des saisons. C'est pas un hasard si Hölderlin, par exemple, quand il sera sous tutelle, c'est-à-dire quand il sera quasiment enfermé dans la maison d'un menuisier qui s'appelait Zimmer, d'ailleurs, qui l'avait accueilli après son expérience dans un hôpital psychiatrique. C'est pas un hasard si Hölderlin fait des poèmes sur le passage des saisons. C'est-à-dire il capte tout à coup ce qui fait épiphanie dans le passage des saisons. Et en même temps, il y a plus de... Sa pensée n'est plus une pensée construite. C'est-à-dire, en même temps, il est en dehors. Il est en dehors des concepts, il est en dehors de tout ça. Il est juste dans le passage, comme ça. Mais son esprit ne fonctionne plus forcément d'une manière logique. Or, la poésie, c'est ça. Les poèmes sont assez courts dans l'intime danse. C'est des poèmes qui se volent comme des traits, en fait. Avec cette idée qu'au fond, on est quand même... en Occident, en Europe, dans quelque chose qui est en train de mourir. C'est une conviction chez Hölderlin. Ce qui est en train de mourir, c'est au fond la présence des dieux, ou la présence même du dieu. C'est-à-dire, au fond, c'est tout ce qui pouvait faire lien est en train de disparaître. Donc, vous voyez, il y a à la fois la présence des choses et en même temps leur retrait. Hölderlin, il est très, très inquiet, très angoissé par ça. Par ce mouvement de présence et puis de retrait. Je pourrais peut-être vous lire pour essayer d'être explicite. Si
allons-y, j'allais justement vous poser la question pour...
Dans l'encadrement de la fenêtre, les floraisons, tout le lointain. Et l'amour ressemble à du feu. Dans toutes les langues, la plénitude cachée se dévoile au-delà de toute attente. Un autre peut-être. L'intime danse sur l'abîme. Courage cœur dans la poussière dorée. Comme ce Dieu resté à l'écart et qui sépare. La femme douce qui s'allonge et appelle au silence ne sait plus choisir. Entre l'amour long et l'amour à vif.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors vous nous en avez parlé un petit peu, mais comment vous écrivez est-ce que c'est... Voilà, le processus d'écriture, comment se passe-t-il ?
En fait, il n'a jamais varié le processus d'écriture. Il a été très chaotique, toujours. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain ni un poète professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est fait violence pour écrire. En ce sens, je suis vraiment un poète, c'est-à-dire je suis à la marge de la marge. Comment vous expliquer ? J'ai toujours été quelqu'un qui a voulu répondre à des nécessités intérieures. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit après un choc. Chez moi, il y a beaucoup la notion de trauma. Qu'est-ce que j'appelle choc ? Le choc, ça peut être un choc négatif, c'est-à-dire, ça c'est lié à ma traversée, on vit tous des tragédies, j'en ai vécu comme tout le monde. Mais aussi, le choc, c'est peut être le choc amoureux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui surgit, qui vient de l'extérieur, qui est beau ou qui n'est pas beau, qui est joyeux ou qui est triste. Et c'est ça qui va servir de moteur à mon écriture. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais avoir la nécessité de prendre du recul par rapport à ce que je vis, à ce que je traverse. Et ce recul va s'exprimer par la solitude de l'écriture. C'est-à-dire, je vais m'isoler, je vais écrire. Donc, je ne suis pas comme ces écrivains qui s'imposent d'écrire, par exemple, tous les matins ou tous les soirs. Je suis quelqu'un qui parfois ressent le besoin d'être seul et d'écrire. Ça peut être parfois plusieurs jours dans la semaine. Et puis ensuite, pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, je ne vais pas écrire. Ça s'est passé comme ça. Donc j'écris dans un premier temps. Ensuite, je laisse reposer. Je reprends. Je reprends donc mes brouillons. Je change de version. J'essaie d'en faire un poème. Après, j'essaie de faire deux poèmes, trois poèmes, 20, 30, 40, 50, 60 poèmes. Et à un moment donné, quand tout ça a bien... c'est bien construit, ça ne dépend plus de moi. Je pense qu'il y a une logique, qu'il y a une structure en tous les cas, et je vais en faire un livre. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et alors, on pourrait penser... C'est un ami à moi qui avait dit, j'ai quand même 30 livres, j'ai écrit 30 livres quand même, pas que de la poésie, hein. Mais j'ai fait des anthologies, j'ai fait aussi des carnets. Donc ça fait quand même maintenant 30 livres, j'ai 64 ans, 30 livres, on pourrait penser que c'est quand même beaucoup. Et je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé. C'est-à-dire, ça n'a pas été un travail pour moi, la poésie. C'est quelque chose qui s'est vraiment comme ça imposé selon mon rythme.
Alors, justement, vous nous en parliez de quel trauma naît l'intime danse. Vous nous avez peut-être un peu parlé cette idée d'être en retraite, peut-être. Voilà, après je couperai ou pas, mais de quel événement, de quelle émergence, comme vous disiez, naît l'intime danse.
Ça constitue en fait un choc, même un trauma, si on ne prend pas le mot d'une manière tragique, d'avoir eu beaucoup d'activités professionnelles qui m'intéressaient d'ailleurs. J'invitais beaucoup d'auteurs. D'être donc vraiment occupé dans une sorte d'affairement culturel, puisque j'ai toujours travaillé dans le milieu de la culture. Et tout à coup, mais volontairement, de se retrouver en définitive très, très seul, très en retrait. Automatiquement, là où le choc, en quelque sorte, il est de se dire, au fond, quel bilan je fais moi-même de ma vie, de mon intimité, parce que le retrait ou la retraite, c'est quand même une mort, c'est une petite mort. C'est-à-dire que l'être social qu'on était, qui nous a porté aussi, tout à coup se retrouve face à lui-même. Et ensuite, c'est toujours aussi lié au rapport qu'on a avec un être ou deux êtres qui ont compté beaucoup et qui parfois sent qu'effectivement, il y a aussi une sorte de retrait par rapport à une histoire qu'on a eue. Et là aussi, ça forme, ça pose question aussi. Voilà, ça pose question. Et donc, l'intime danse, c'est né comme ça. Mais encore une fois, c'est lié aussi au choc et au trauma que Hölderlin lui-même a vécu. C'est-à-dire dans un processus amical d'identification, puisque je considère qu'un poète comme Hölderlin est un ami, même peut-être un de mes meilleurs amis, hein, c'est ça. Les morts sont parfois plus vivants que les vivants. Hein, c'est ça que je veux dire, ça c'est intéressant de penser que les morts peuvent être parfois plus vivants que les vivants. Voilà. Alors, ce qui m'a justement l'identification par rapport à Hölderlin, c'est-à-dire que je prends en compte, je porte en quelque sorte la croix d'Hölderlin. Un écrivain, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui porte la croix des autres. J'ai fait des livres, on ne va pas en avoir le temps d'en parler, mais par exemple un livre comme Tacite, que j'avais publié chez Flammarion, c'est un livre qui s'inscrit dans l'histoire monumentale, hein, dans ce que Nietzsche appelait l'histoire monumentale, qui est l'histoire des hommes. L'histoire des guerres, l'histoire des conflits, l'histoire des horreurs, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'un écrivain, il est quand même à l'écoute, pas uniquement de lui-même. S'il était uniquement à l'écoute de lui-même, ce ne serait pas toujours très intéressant. Il est à l'écoute aussi des événements. J'ai fait aussi, moi, une poésie de circonstances, une poésie événementielle. Et ces événements, le poète doit les porter aussi. Hein, c'est tout le problème de la poésie, de l'engagement aussi, même y compris de l'engagement politique. Hein, il y a eu Paul Éluard, par exemple, si on prend la figure de Paul Éluard, c'est à la fois un poète qui est un poète de l'amour, on va dire, mais c'est aussi un poète très à l'écoute de l'histoire. Chez moi, c'est la même chose. Donc je porte l'histoire aussi d'Hölderlin, qui est l'histoire aussi de son siècle, qui est l'histoire de tous ces conflits, qui est l'histoire de l'Europe, comment elle se construit ou se déconstruit. Il y a tout ça chez Hölderlin. Et donc, voilà, je porte Hölderlin. Un écrivain porte aussi le monde, quelque part. Porte aussi des singularités. Porte la tristesse ou la joie des autres. On n'est pas seul, en fait. On est avec. Hein, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien. On est avec. Je suis avec.
Dans la présentation, je ne l'ai pas dit, mais voilà, il y a une dimension biographique. Vous habitiez à Paris, dans le tumulte parisien, dans l'énergie parisienne, et aussi la rudesse de cette vie parisienne. Le fait de s'installer ici, en retrait, dans une retraite aussi, comme vous l'expliquiez, comment est-ce que, dans l'écriture, vous retraduisez les lieux dans lesquels on vit, ces paysages? Enfin, vous nous en avez un peu parlé, mais l'écrivain se fait aussi le média à travers lequel passe l'environnement dans lequel il vit.
Vous avez tout à fait raison. Et dans l'intime danse, il y a la présence très marquée de la géographie locale, si je puis dire. Dans l'intime danse, il y a beaucoup la présence de l'océan, de ce mouvement. Et c'est pas n'importe quelle mer, c'est une mer avec des marées, c'est une mer qui peut être calme, c'est une mer qui peut être déchaînée. Il y a aussi l'aspect des villages, auxquels je suis très très attaché. Je suis foncièrement un provincial, c'est-à-dire que j'ai vécu en effet à Paris, j'ai travaillé à Paris, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune Paris. Pourquoi ? Parce que j'étais un petit môme, un petit gosse de la banlieue, et que pour moi, Paris, c'était la capitale de la culture, des arts, de la fête aussi. Alors quand j'avais 17 ans, je me suis retrouvé à Paris, seul, je découvrais tout ça. Je suis issu d'un milieu modeste, plutôt populaire, un milieu d'ouvriers, où la culture n'existait pas beaucoup, où il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi. Une famille tout à fait respectable, avec une culture populaire et ouvrière à laquelle je suis fidèle, toujours fidèle. Mais quand je suis vraiment arrivé à Paris, c'était autre chose, bien sûr. Les bouquinistes, les musées, j'ai découvert l'art, le musée du Louvre, évidemment. Le cinéma, à l'époque, j'allais beaucoup au cinéma. Puis je lisais, voilà. Donc il y avait, voilà. Et puis j'ai fini par presque détester Paris. Pour une raison sensible, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette grande ville a été abîmée. Elle a été abîmée par quoi ? Par un changement sociologique. Moi, j'ai connu le Paris populaire, vraiment où il y avait des quartiers. Je vivais, quand j'avais 17 ans, dans une chambre de bonne, dans le quartier du Marais. Et j'ai vu l'évolution de cette ville qui s'est embourgeoisée, qui est devenue une ville commerciale, une ville marchande, en quelque sorte. Il y a des très beaux textes de Guy Debord là-dessus, hein, qui expliquent pourquoi il a fui Paris. Le Paris des mouvements populaires, le Paris de mai 68, le Paris joyeux, en définitive, a donné place à un Paris bourgeois, étriqué, marchand. Donc, voilà, Alors, ensuite, donc vous avez raison, il y a une empreinte géographique, elle est très très présente. Et quand je dis que je suis un provincial, c'est-à-dire que j'aime les gens d'ici. J'aime les gens qui vivent ici. Le breton, j'ai vu ça, voilà, j'ai constaté ça, je me trompe peut-être. Et quelqu'un à la fois de taiseux et très en retrait. Il y a un côté comme ça. Mais en même temps, il a une empreinte auquel il croit. C'est-à-dire qu'il y a une immense courtoisie et une très grande délicatesse aussi. Et dans les personnes que j'ai rencontrées, même ici, dans mon village, il y a vraiment des personnes qui m'ont ému, notamment des personnes aussi âgées, enfin, etc., avec qui j'ai pas de relation amicale, on va dire, mais que je vois vivre, voilà. Et même l'esprit général, je veux dire, de cette province-là, et voilà, il y a quelque chose qui me touche.
Voilà, vous nous parliez de Rimbaud comme une grande influence, Hölderlin aussi, qui ont des destins difficiles pour le coup. C'est ça l'épreuve de la négativité dont vous parlez et le travail d'écriture comme une forme de rédemption, ou de pas de rédemption, mais de sublimation de la difficulté de vivre, tout simplement.
Je pense qu'effectivement, si on veut habiter vraiment poétiquement le monde, ça veut dire qu'on a une sensibilité qui n'est pas forcément commune. On peut avoir une sensibilité un peu exacerbée. Et du coup, la traversée du négatif, on la perçoit d'une manière plus radicale, plus absolue que d'autres. Il y a quelque chose de passionnel dans le destin de certaines personnes, de certains écrivains. C'est vrai, vous avez raison, chez Rimbaud et chez Hölderlin, on pourrait dire qu'il y a un destin qui n'est pas un destin extrêmement reluisant ou même souhaitable. On évoque ces deux noms, mais j'évoque même pas Artaud, qui a passé la moitié de sa vie, sinon plus, dans des asiles psychiatriques, avec cette souffrance donc absolument immense. C'est un peu le prix à payer. C'est le prix à payer à une sensibilité. Après, je crois qu'il n'y a rien de maudit, non plus. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'une fois que les choses sont dites, il n'y a plus de, il y a plus d'enfer, en quelque sorte. Je crois beaucoup à la vertu du langage, à la vertu des mots, à la vertu de la poésie. je pense qu'on soigne, on peut soigner à la fois l'époque et soi-même, si on transcende un peu son état. Je crois que le fait d'écrire, donc de s'adresser, parce qu'en fait, c'est vraiment la question. Si on écrit, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un. Enfin, en tous les cas, si on publie, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un. Je crois donc qu'il existe une communauté fraternelle dans l'écriture, et que cette communauté fraternelle fait que, quelque part, on n'est pas maudit. Je dirais que sont damnés et sont maudits ceux qui sont pas capables d'aimer, qui n'ont pas eu le courage d'aimer, qui n'ont pas pris ce risque, au fond, d'aimer et de jouer vraiment leur vie face aux autres et face au monde. Ceux-là sont maudits. C'est-à-dire qu'ils sont dans le mal dit. Vous voyez, on pourrait presque faire un jeu de mots. Ce qui est maudit, c'est ce qui est mal dit. Quand quelqu'un ne parvient pas à vivre en définitive sa propre sensibilité confrontée à la sensibilité de l'autre, là, cette personne, elle est maudite. C'est ça l'enfer, en fait. L'enfer, c'est pas de traverser le négatif. L'enfer, c'est pas d'en baver. L'enfer, c'est pas d'essayer de faire preuve de courage pour surmonter les choses. L'enfer, c'est de renoncer. L'enfer, c'est de céder. C'est de céder aux passions tristes. Hein, c'est ce que Spinoza appelait les passions tristes. Vous voyez, cet enchaînement de ressentiments, les gens qui sont dans le ressentiment, dans la haine, dans la négation. Ces gens-là sont en enfer. Ces gens-là sont maudits. Rimbaud et Hölderlin n'ont jamais été dans le ressentiment. Ils n'ont jamais été dans le renoncement. Ils ont toujours été dans le courage.
Est-ce que vous nous liriez quelques autres passages, extraits de ce recueil, donc l'intime danse ?
Si la proximité n'existe que dans l'écart, chacun ici séjourne dans le lointain, seul et jamais seul, dans le trait que laisse le retrait, l'amour comme surprise de l'événement. Le surcroît qui ne peut être demandé répond pourtant à un désir. Science des couleurs et des sons. Quelle absence quand le cœur au secret acquiesce à la beauté. Bouche belle d'un baiser, sous l'œil peint d'eau pure. Quand elle lui dit « Vous serez mon invisible compagnon », elle se dévoile, pénétrée de silence. Et elle donne au sommeil ses lèvres humides. De sa nuque à sa taille, la partition se livre à la pente lumineuse où ses doigts se nouent en marée haute.
Pascal Boulanger, merci donc pour cet entretien donc autour de ce recueil qui s'intitule L'intime danse aux éditions du Cygne. Merci à vous.
Merci à vous, Mathieu, de votre accueil.